Bonjour, donc je suis Fabienne Federini, je suis un peu plus vieille que Monsieur Lusseau parce que je suis au département de la recherche, du développement de l'innovation et de l'expérimentation depuis septembre. Je suis arrivée donc dans l'équipe de Madame Bénédicte Robert que vous avez dû voir l'année dernière. Elle s'excuse de ne pas pouvoir être présente parmi vous et elle m'a demandé donc de la représenter. D'abord, je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai à la fois de revenir dans ces lieux, puisque j'ai effectué ma thèse avec Bernard Lahir juste à côté, à l'ENS de Lyon, Lettres et Sciences Humaines, et j'y ai été également chargée de recherche pendant 2 ans et collaboratrice associée jusqu'en 2010. Donc voilà, je suis très contente de revenir. Je voulais aussi vous parler de cette convention donc, que l'IFE a avec la DGESCO, donc la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, et vous dire combien, en fait, au sein de cette convention, les LEA représentent ce que nous souhaiterions faire et montrer dans, je dirais, l'existence de ce département auprès de la DGESCO, voulant effectivement à la fois une mission de médiation et une mission de traduction de la recherche auprès de ces acteurs et auprès, je dirais, de tous les acteurs intéressés par les problèmes de l'éducation qui sont beaucoup plus larges, comme M. Lusseau l'a dit, que le ministère de l'Éducation nationale ou le ministère de l'Enseignement supérieur. Je dirais que les LEA ont 2 aspects. Un aspect qui serait la recherche pour l'éducation et puis un autre aspect qui serait l'éducation en recherche. Alors, ce n'est pas seulement un renversement de perspective, mais je voudrais simplement dire quelques mots sur... Alors, la recherche pour l'éducation, c'est effectivement le fait que des chercheurs aillent sur le terrain, pas seulement pour que le terrain soit un terrain d'expérimentation, mais qu'il soit véritablement accompagnant et auprès des équipes pour les aider à résoudre un certain nombre de leurs besoins qu'ils ont identifiés ou qu'en tout cas ils se posent, et d'être aussi accompagnant dans, je dirais, une espèce de formation, qu'elle s'explicite ou pas, c'est-à-dire ce qu'on appelle en sociologie et dans d'autres sciences la réflexivité, c'est-à-dire une critique et un retour sur les expériences, sur ce qui se fait, sur ce qui se fait de bien, ce qui se fait de moins bien, et d'expliquer effectivement aux acteurs ce qu'ils engagent dans une relation pédagogique. L'éducation en recherche, ben, c'est effectivement les collègues sur le terrain, dans les lycées, dans les écoles, dans les collèges, qui ont des soucis, se posent des problèmes, s'interrogent et souhaitent effectivement être accompagnés parce qu'ils n'ont pas la distance nécessaire, ils n'ont plus la distance nécessaire pour certains, de pouvoir résoudre un certain nombre de questions. Et évidemment, les questions qui se posent aujourd'hui à l'éducation nationale sont des problèmes de sortie sans qualification, sans diplôme, ce qu'on appelle un peu le... décrochage scolaire, ou en tout cas la rupture scolaire, pour le dire vite. Je vais finir très vite mon propos. Je voulais simplement vous citer un extrait de Marc Bloch, l'historien, qui est un extrait de l'Apologie pour l'histoire qu'il a écrit en 1942. Alors Marc Bloch, à cette époque-là, est engagé dans le mouvement de la résistance, dans le mouvement franc-tireur, et il écrit son Apologie pour l'histoire, et je pense que ces termes à la fois résonnent, évidemment d'un point de vue historique, mais résonnent aussi aujourd'hui pour nous, dans ce que nous souhaitons faire à la fois entre des institutions, le terrain, la recherche, et puis ce que vous faites au quotidien au sein des LEA. Qu'est-ce qu'au juste qui fait la légitimité d'un effort intellectuel? Personne, j'imagine, n'oserait plus dire aujourd'hui, avec les positivistes de stricte obédience, que la valeur d'une recherche se mesure en tout et pour tout à son attitude à servir l'action. L'expérience ne nous a pas seulement appris qu'il est impossible de décider à l'avance si les spéculations en apparence les plus désintéressées ne se révéleront pas un jour étonnamment secourables à la pratique. Ce serait infliger à l'humanité une étrange mutilation que de lui refuser le droit de chercher, en dehors de tout souci de bien-être, l'apaisement de ses fins intellectuelles. L'histoire dut-elle être éternellement indifférente à l'homo faber ou politicus qui lui suffirait pour sa défense d'être reconnu comme nécessaire au plein épanouissement de l'homo sapiens? Cependant, même ainsi bornée, la question n'est pas pour autant d'emblée résolue. Une science nous paraîtra toujours avoir quelque chose d'incomplet si elle ne doit pas, tôt ou tard, nous aider à mieux vivre. Comment en particulier n'éprouverions-nous pas ce sentiment avec beaucoup de force envers l'histoire, d'autant plus clairement prédestinée, croit-on, à travailler au profit de l'homme, qu'elle a l'homme même et ses actes pour matière? En fait, un vieux penchant auquel on supposera au moins une valeur d'instinct nous incline à lui demander les moyens de guider notre action. Le problème de l'utilité de l'histoire, au sens étroit, au sens pragmatique du mot « utile », ne se confond pas avec celui de sa légitimité. Proprement intellectuel, il ne peut d'ailleurs venir qu'en second. Pour agir raisonnablement, ne faut-il pas d'abord comprendre ? Merci beaucoup de votre attention.